paracha de Korach m'a toujours laissé un goût amer. Non seulement à cause de son dénouement brutal, la terre qui s'ouvre, les hommes engloutis, les 250 notables consumés par le feu, mais surtout parce que le jugement porté sur Korach semble à première vue un peu trop simple. Les Pirkei Avot font d'ailleurs de Korach l'archétype de la controverse qui n'est pas les Shem Shamaim. La Mishnah enseigne que toute controverse menée au nom du ciel finit par subsister, tandis qu'une controverse qui n'est pas menée au nom du ciel ne peut pas subsister. Elle donne alors deux exemples. La controverse de Hillel et Shammai comme modèle de controverse au nom du ciel, et celle de Korach et de toute son assemblée comme son exact contraire. Le verdict est donc sans appel. Hillel et Shammai discutent pour la vérité. Korach, lui, discuterait pour lui-même. Sa révolte serait intéressée, stérile, portée par l'honneur, l'ambition ou la jalousie. Mais c'est précisément ce verdict qui dérange. Car si l'on revient au texte biblique avant de le lire à travers sa condamnation rabbinique, Korach apparaît comme une figure beaucoup plus complexe qu'un simple ambitieux blessé. Il ne présente pas comme un homme qui veut abolir Dieu, il ne rejette ni la Torah, ni la loi, ni la sainteté. Il formule au contraire une phrase presque irréprochable. Toute l'assemblée, tous sont saints et Dieu est au milieu d'eux. Comment une telle phrase peut-elle devenir l'exemple même du controverse qui n'est pas l'Echem Shamaim, qui n'est pas au nom de Dieu? Voilà la question. À première vue, Korach semble précisément parler au nom du ciel. Il demande pourquoi l'accès au sacré devrait être réservé à quelqu'un? Pourquoi une communauté appelée tout entière à la sainteté devrait accepter une structure dans laquelle seuls certains peuvent s'approcher, servir, offrir et représenter? Pourquoi, si Dieu réside au milieu du peuple, l'individu devrait encore passer par une hiérarchie de prêtres, de lévim, de chefs et de médiateurs? La difficulté n'est donc pas simplement de comprendre pourquoi Korach est puni, la difficulté est de comprendre pourquoi une revendication qui semble porter sur l'égalité devant Dieu, sur la sainteté de tout le peuple et sur le refus d'une caste religieuse est précisément désignée par les sages comme l'antimodèle de la controverse au nom du ciel. Le trouble devient encore plus fort lorsqu'on regarde qui est Korach. Korach n'est pas un inconnu. La paracha commence par sa généalogie. Il est cousin de Moïse et d'Aaron. Il appartient à la tribu de Lévi. Il n'est pas extérieur au système. Il en vient du centre. Il n'est pas un marginal qui se soulève contre une structure dont il serait totalement exclu. Selon certains commentateurs, Korach est même immensément riche. Le Midrash rapporte que les clés de sa fortune étaient si nombreuses qu'elle devait être portée par 300 mulets. L'image est évidemment hyperbolique, mais elle dit quelque chose d'essentiel. Korach n'est pas un homme sans nom, sans rang, sans fortune, sans place. Au contraire, Korach a beaucoup à perdre. C'est cela qui rend sa révolte encore plus sérieuse. S'il possède déjà un statut, s'il appartient déjà à l'élite lévitique, s'il jouit déjà d'une position reconnue, alors il devient trop facile de réduire immédiatement sa contestation à une simple jalousie personnelle. Korach pourrait se taire, il pourrait profiter de l'ordre établi, il pourrait rester du bon côté de la hiérarchie. Pourtant, il choisit de tout risquer pour poser une question. Pourquoi l'accès au sacré resterait-il concentré entre les mains de quelqu'un alors que toute l'assemblée est sainte? C'est ce qui donne, au moins en apparence, une dimension l'Echem Shamaïm à sa contestation. Korach ne semble pas demander seulement « pourquoi pas moi ?» Il semble demander « pourquoi pas tout le peuple ?» Il semble même prendre au sérieux l'ordonnance divine « Kedoshim tiu ki kadosh ani »« Soyez saints, car je suis saint. » Si Dieu ordonne à l'assemblée du peuple d'être saint, alors la revendication de Korach prend une force particulière. Il ne demande pas seulement un privilège supplémentaire. Il semble demander que la sainteté ne reste pas une idée abstraite proclamée par tous, mais organisée par quelqu'un. Il veut tirer les conséquences concrètes de cette injonction. Si tout Israël est appelé à la sainteté, alors tout Israël doit pouvoir se tenir devant Dieu. Korach semble donc dire à Moïse, « Tu as reçu une Torah qui appelle tout le peuple à la sainteté. Pourquoi donc construis-tu un ordre dans lequel seuls certains possèdent les clés du culte ?» La réponse de Moïse rend alors le texte encore plus difficile. Moïse ne répond pas d'abord par une longue démonstration. Il ne montre pas immédiatement en quoi la sainteté de tous n'abolit pas les fonctions particulières. Il propose une épreuve que Korach et ses hommes prêtent des encensoirs, qu'ils apportent de l'encens devant Dieu et que Dieu désigne celui qu'il choisit. À première vue, l'épreuve paraît loyale, mais elle ne l'est pas si simplement. Depuis la mort de Nadab et Abihu, les enfants d'Aaron, l'encens n'est plus un rite neutre. Les fils d'Aaron étaient prêtres. Ils avaient une légitimité sacerdotale. Pourtant, ils furent frappés pour avoir offert un feu étranger, un feu que Dieu n'avait pas ordonné. Comment comprendre alors que Moïse demande précisément aux opposants de Korach de s'avancer avec de l'encens? Comment peut-il demander de poser l'acte actuel le plus dangereux qui soit, en sachant qu'un geste non ordonné peut conduire à une mort quasi certaine? Et surtout, Moïse et Aaron, eux, ne se risquent pas à cet exercice. Ils restent devant la tente. Les 250 hommes, eux, s'avancent avec leur encensoir. C'est là que la scène devient presque insoutenable. Ceux qui contestent le monopole du culte sont précisément invités à poser l'acte cultuel qui peut les tuer. Ceux qui demandent à s'approcher sont conduits vers le feu. Ceux qui affirment que la sainteté appartient à tous sont placés devant le lieu où la sainteté peut consumer. Moïse ne leur répond pas simplement par un argument. Il les place devant le feu. Il faut garder ce malaise. Il ne faut pas l'effacer trop vite en transformant Moïse en figure parfaitement transparente et Korach en simple démagogue. Le texte est beaucoup plus dur que cela. À ce stade, la critique de Korach apparaît profonde et même philosophiquement redoutable. Korach semble craindre que le système mis en place par Moïse ne finisse par produire une classe religieuse située de fait au-dessus de la loi. Si l'accès au sacré, au culte et à la parole divine passe toujours par les mêmes figures, Moïse, Aaron, les prêtres, les Lévim, alors le risque est évident. Un groupe pourrait imposer sa vision du divin, organiser la société autour de son autorité propre et subordonner le reste du peuple à son interprétation. Dans cette perspective, Korach ne conteste pas seulement une nomination sacerdotale. Il conteste la possibilité qu'un groupe humain s'approprie les clés du sacré et transforme cette mainmise cultuelle en pouvoir politique, moral et spirituel. Sa crainte est redoutable. La prêtrise pourrait devenir une caste. Non seulement une fonction au service du peuple, mais une classe bénéficiant d'une forme d'immunité. Une classe capable de dire ce que Dieu veut, ce que la loi exige, ce que le peuple doit faire, sans que le peuple puisse participer directement à cette relation avec le divin. Une telle structure recréerait une soumission peut-être encore plus profonde que celle de l'Égypte. En Égypte, l'esclavage était physique, les corps étaient soumis à Pharaon. Dans une société religieuse verticale, la soumission pourrait devenir intellectuelle, morale et spirituelle. Ceux qui n'ont pas accès à la prêtrise ne seraient pas seulement exclus d'un service cultuel, ils seraient aussi dépendants d'un autre groupe pour comprendre Dieu, la loi et leur propre place dans le monde. Korach craint donc qu'au nom de l'ordre divin, on réinstalle une société verticale où certains parlent, interprètent et décident, tandis que les autres écoutent, obéissent et restent à distance. Il y a là une objection forte contre toute confiscation du sacré par une élite. Cette intuition rejoint d'une certaine manière l'idée exprimée plus tard par la Mishnah dans Sanhedrin 4.5. L'individu n'est pas une unité interchangeable dans une masse. Il est un monde entier. Il porte une dignité propre, une singularité irréductible et une responsabilité devant Dieu. Dans cette perspective, Korach semble défendre une idée radicale. Si chaque individu est un monde entier, alors il ne peut pas être entièrement subordonné à une autorité humaine, aussi sainte soit-elle. Il ne peut pas être réduit à un ordre religieux qui se placerait à sa place, penserait à sa place et organiserait seul son accès à Dieu. Sa défense semble même trouver un écho dans une autre intuition rabbinique attribuée à la Mechilta de Rabbi Ishmael. La Torah a été donnée dans le désert afin que quiconque qui veut l'accepter puisse venir la recevoir. Le choix du désert n'est pas anodin. Le désert est un espace sans propriétaire, sans gouvernement stable, sans classe dirigeante, capable de dire « la Torah nous appartient ». La Torah n'est pas donnée dans une capitale, ni dans un palais, ni dans un territoire déjà organisé par une souveraineté humaine. Elle est donnée dans un lieu ouvert, disponible et non appropriable. Korach semble alors rappeler à Moïse une vérité embarrassante. Si la Torah a été donnée dans un état de liberté pure, comment pourrait-elle ensuite produire une société où l'accès à Dieu semble contrôlé par quelques personnes? Même Datan et Aviran, dans leur accusation apparemment grotesque, expriment quelque chose de cette inquiétude. Lorsqu'ils accusent Moïse de les avoir fait monter d'une terre ruisselante de lait et de miel pour les faire mourir dans le désert, la lecture classique y verrait un regret de l'Égypte et de l'esclavage. Mais on peut aussi y entendre une accusation plus profonde, celle d'avoir remplacé une domination visible par une dépendance nouvelle envers Moïse, Aaron et leur système. Voilà donc la force de Korach. Il ne faut pas l'affaiblir. Il ne faut pas faire comme si la révolte était stupide. Korach a raison de craindre la confiscation du sacré par une caste. Il a raison de refuser que la Torah devienne la propriété d'un groupe. Il a raison de rappeler que tout Israël est appelé à la sainteté. Il a aussi raison de dénoncer le danger d'une autorité religieuse qui deviendrait domination. Mais il se trompe. Et son erreur n'est pas secondaire. Elle détruit tout. Korach a raison sur le danger en lui-même, mais il se trompe cependant sur le remède. Son erreur est de croire que la seule manière d'empêcher la confiscation du sacré serait d'abolir toute distinction. Il voit une fonction et voit déjà une caste. Il voit une médiation et il y voit déjà une dépossession. Il voit une hiérarchie culturelle et il voit déjà une classe au-dessus de la loi. Or, la Torah ne répond pas au danger du pouvoir par l'effacement des institutions. Elle y répond justement par leur distinction. Et c'est là le sens profond de ce que la tradition appelle les trois couronnes. La couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne de la royauté. Ces trois couronnes ne font pas une aristocratie sacrée. Elles expriment au contraire une limitation du pouvoir. Aucune autorité humaine ne peut prétendre à la totalité. La Torah ne confond pas celui qui enseigne, celui qui sert dans le sanctuaire et celui qui gouverne politiquement. Moïse n'est pas Aaron, Aaron n'est pas le roi n'est pas détenteur exclusif de la Torah. La prêtrise n'épuise pas la sainteté du peuple. L'autorité politique ne possède pas le culte. L'autorité culturelle ne possède pas tout le peuple. Le danger que Korach identifie est donc réel, mais la solution biblique n'est pas l'indifférenciation. C'est la séparation des fonctions. Le désert signifie que la Torah ne peut être possédée. Il ne signifie pas qu'elle ne peut pas être organisée. C'est ici qu'il faut revenir au début du livre de Bamidbar. À première vue, la paracha de Bamidbar ressemble à un texte administratif, des noms, des chiffres, des chefs de tribu, l'organisation du camp. Pourtant, Bamidbar n'est pas une introduction bureaucratique. C'est la naissance même d'un peuple organisé. Le nom même du Sefer est essentiel. Bamidbar dans le désert. Le désert est un espace indéfini, sans structure stable, sans centre politique clair, où chaque élément risque de se dissoudre dans l'indistinction. Or, c'est précisément contre cette dissolution que la Torah construit le peuple. Dieu demande à Moïse de compter Israël selon ses familles, selon les maisons paternelles, selon le nombre des noms. Le peuple n'est pas une masse informe. Chaque individu possède un nom, une famille, une tribu et une place. Puis vient l'organisation des drapeaux, Ish al Diglo, chacun sous son drapeau. Chaque tribu possède son étendard, sa position et son identité propre. L'unité d'Israël ne repose donc ni sur l'uniformité, ni sur la fragmentation. Les tribus demeurent distinctes, mais elles s'orientent tous vers le même centre, le Mishkan. Sans centre commun, les tribus deviendraient des souverainetés concurrentes. Sans différence, le peuple deviendrait une masse indistincte. Bamidbar propose donc un modèle d'unité structurée, une collectivité capable d'intégrer des identités différentes autour d'une mission commune. Cette organisation concerne aussi les institutions. Les Lévi'im ne sont pas recensés avec les autres tribus. Ils reçoivent une fonction spécifique liée au service du Mishkan. La Torah distingue les fonctions cultuelles, militaires, tribales et collectives. Elle ne fusionne pas toutes les formes d'autorité dans une seule structure totale. C'est à partir de là que la révolte de Korach peut être comprise. Korach ne surgit pas seulement comme une crise personnelle d'ambition ou de jalousie. Sa révolte conteste directement le modèle institutionnel construit par Bamidbar. Mais cependant, il confond deux choses, l'égalité de dignité et l'indifférenciation des fonctions. Que tout le peuple soit saint, que tout le peuple soit saint, ne signifie pas que toutes les fonctions soient identiques. Que chacun participe à l'Alliance ne signifie pas que chacun possède le même rôle institutionnel. Que Dieu soit au milieu du peuple ne signifie pas que toute médiation devienne illégitime. La faute de Korach est de transformer une vérité juste, Kulam Kedoshim, tous sont saints, en conclusion fausse. Donc toutes les distinctions deviennent illégitimes. Il absolutise l'égalité jusqu'à nier la structure. Or, Bamidbar enseigne exactement l'inverse. Un peuple ne devient pas saint en devenant amorphe. Il devient saint lorsque chaque individu, chaque tribu et chaque institution trouvent leur place propre autour d'un centre commun. C'est pourquoi la réponse de Moïse par l'ensemble prend tout son sens, sans nécessairement perdre sa violence. Moïse ne choisit pas l'encens de manière arbitraire. Il ne déplace pas le débat, il le radicalise. Korach conteste les conditions même de l'approche du sacré. L'encens devient donc l'épreuve exacte de sa thèse. Il force la revendication de Korach à se mesurer à son propre objet, le feu, le culte, la proximité avec Dieu. Korach affirme que chacun peut s'approcher. Moïse lui répond « Approchez-vous ». Korach affirme que la sainteté commune suffit. Moïse lui répond « Voyons si cette sainteté suffit réellement à autoriser l'accès au sacré ». Cette réponse est terrible. Moïse et Aaron restent devant la tente, tandis que les hommes de Korach s'avancent avec l'encens. Ils ne brûlent pas parce que Moïse aurait simplement gagné un débat. Ils brûlent parce que la question de Korach n'est pas théorique. Elle portait sur l'accès au feu et à Dieu. Et la Torah répond par le feu. Ce n'est donc ni un simple piège, ni une simple réfutation intellectuelle. C'est une mise à l'épreuve radicale, presque insoutenable de la thèse de Korach. Après Nadav et Avihu, tout le monde sait que l'encens peut tuer. Mais c'est précisément pour cela que l'épreuve est pertinente. Elle rappelle que le sacré biblique n'est pas une énergie immédiatement disponible à tous, sans forme ni autorisation. Il exige des limites, des médiations, des fonctions et des responsabilités. On comprend alors pourquoi les Pirkei Avot font de Korach l'exemple même de la controverse qui n'est pas l'Echem Shamaim, au nom du ciel. Non parce qu'il ose contester, non parce que l'égalité serait mauvaise, non parce que toute autorité devrait être acceptée sans discussion, mais parce que sa controverse ne clarifie pas la vérité. Elle dissout les conditions même d'un ordre commun. Hillel et Shammai discutent pour préciser la Torah. Korach discute au nom d'une vérité réelle, mais il la pousse jusqu'à l'abolition des médiations qui permettraient au peuple de tenir ensemble. Korach a raison de rappeler que toute l'assemblée est sainte. Il a raison de craindre une autorité religieuse qui deviendrait domination. Il a aussi raison de refuser que la Torah soit confisquée par une caste. Mais cependant, il a tort de croire que cette sainteté rend toute distinction illégitime. Le problème des revendications de Korach n'est donc pas l'égalité. C'est l'égalité sans structure. Ce n'est pas la sainteté du peuple, c'est la sainteté transformée en indifférenciation. Ce n'est pas la contestation de l'autorité, c'est la destruction des formes qui permettent à une communauté de devenir un peuple. La sainteté biblique n'est pas l'effacement des formes, elle est leur juste ordonnancement. Shabbat shalom.